Je parle les séries, pas nécessairement le hockey, les séries à la télé, des séries Netflix, ouais, quelques-uns. Des fois on embarque puis on passe du temps là-dessus, on est d'accord. Et moi, il y a un livre dans la Bible. À chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que j'embarque dans une série Netflix. Vous savez, le genre de super grosse production qui se passe à l'époque. Et là, il y a des guerriers, tout ça, des combats épiques, des intrigues. Et puis moi, quand je lis ce livre, mon cœur de petit garçon qui veut voir des combats de même, et puis il y a un peu des combats, des fois du sang et tout ça, ben mon cœur de petit garçon, il aime ça. Et ça, ce livre-là, c'est le livre des juges. Le livre des juges regorge d'histoires de guerriers et de héros qui, tour à tour, ont délivré le peuple de Dieu. Et la grande majorité du temps, c'est des histoires assez intenses, assez violentes, assez sanglantes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là? Ouais. Des fois, ça tombe même dans l'horreur. Je vous le dis, là, c'est vraiment pas fait pour les plus sensibles. On a l'exemple de Samson, on connaît tous Samson. Lui, il a décimé une troupe de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Samson a décimé une troupe de 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. C'est intense, là. On n'est pas dans James Bond qui met un petit truc au bout de son pistolet pour que ça fasse pas de bruit, puis on voit pas l'impact de la balle. Genre, il a tapé, genre, ça devait gicler, ça devait pas être très beau. On a l'exemple de Yaël. Yaël, c'était une femme, et c'était toute qu'une femme. Elle, ce qu'elle a fait, elle a pris le chef ennemi. Elle l'a emmené dans sa tente, elle l'a laissé s'endormir pour se reposer là, puis elle a pris un piquet de sa tente. Désolé si votre déjeuner est pas très loin, là, ce matin. C'est la parole de Dieu. Elle a pris un piquet de sa tente, puis elle l'a planté dans la tempe du monsieur, et elle l'a tapé avec un marteau. Désolé, c'est la parole de Dieu. Et je vous garantis que je vous épargne ce matin les histoires les pires. Et moi, des fois, je regarde ces héros, je regarde ces guerriers. C'est comme il y a du muscle, il y a de la sueur, de la testostérone. Puis là, je regarde ça. Puis ensuite, je me regarde moi. Pourquoi vous riez? Hey! Des fois, j'ai l'impression que c'est pas que c'est quelque chose. Il y a comme un clash. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 3000 ans entre cette histoire-là puis moi, mais j'ai l'impression de ne pas correspondre à ce modèle-là. J'ai l'impression parfois que je suis loin de ces hommes et ces femmes de Dieu. J'ai l'impression que je ne suis pas le candidat idéal, le serviteur idéal. Et parfois, dans notre désir de servir Dieu, ça peut sembler un peu décourageant. On peut se sentir disqualifié. On regarde des modèles qui nous semblent inaccessibles. On a tendance à idéaliser les autres, à regarder telle ou telle personne, tel ou tel pasteur, puis dire, lui, il est tellement, tellement spirituel, lui, il connaît tellement bien la Bible, lui, il sait tellement bien prier, c'est tellement inspirant quand il prie. Puis là, on se dit, moi, quand j'aurai atteint ce niveau-là, là, quand je vais être capable de prier comme ça, quand je vais être capable de connaître ma Bible aussi bien, de réciter des versets aussi bien, et puis, là, je pense que je m'en viens, là, je ne suis pas loin de ça. À ce moment-là, Dieu va faire des choses incroyables. Des fois, c'est le raisonnement qu'on a. Mais la réalité avec Dieu n'est pas comme ça. La réalité avec Dieu est tout autre. Et on va regarder ce matin un homme dont on trouve l'histoire dans le livre des Juges, qui allait devenir un chef pour Israël, mais qui pourtant, si on regarde à sa nature, il était disqualifié. Ce n'était pas le candidat idéal. Et cet homme-là, c'est Gédéon. Et on va lire son histoire dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Mais avant de lire, je voudrais qu'on regarde le contexte. En fait, le livre des Juges prend place juste après la conquête du pays de Canaan. C'était le pays promis par Dieu à Abraham. Il avait dit aux Israélites, vous allez conquérir le pays, puis vous allez mettre dehors tous ceux qui étaient là, parce que c'est des peuples qui adorent d'autres dieux, puis vous allez brûler, renverser les autels qu'ils avaient, renverser les idoles qu'ils avaient. Et donc, le peuple d'Israël a conquis le pays, mais ils n'ont pas fait toute la job que Dieu leur avait demandé. Ils ont cohabité avec les gens qui étaient là, ils ont commencé à adopter leurs dieux, leurs idoles. Et c'est dans un contexte comme ça que prend place l'histoire de Gédéon. Après la conquête du pays promis, c'était vraiment des périodes en dents de scie. Le peuple d'Israël, il y avait un libérateur, un chef, un juge, qui allait libérer le peuple. Puis ensuite, peu à peu, le peuple d'Israël allait partir sur autre chose. Il allait laisser rentrer des idoles. Et à ce moment-là, les Israélites sont dans une période où, à cause de leur idolâtrie, Dieu permet l'oppression des autres peuples, notamment le peuple qui s'appelle les Madianites. Et les Madianites, ils passent leur temps à piller les récoltes des Israélites. Ils passent leur temps à ravager le pays. Et les Israélites vivent littéralement dans la peur. Ils vivent littéralement ils cherchent à se cacher de cet ennemi. Ils vont se cacher dans les montagnes, des endroits escarpés. Ils vont dans des grottes, des cavernes. Ils vivent dans la peur. Et à ce moment-là, Dieu va susciter un libérateur en la personne de Gédéon. Et on va lire dans Juges 6, versets 11 à 16. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. Sinon, ça va être à l'écran. Donc au verset 11, « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Et Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi est-ce que je pourrais délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » Et l'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Le message d'aujourd'hui s'intitule « Disqualifié ». Est-ce que parfois tu te sens disqualifié pour servir Dieu ? Est-ce qu'il y en a qui s'arrivent ? Tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens disqualifié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de ne pas être à votre place ? Que quelqu'un vous ait demandé de faire quelque chose, puis toi, tu le sais à l'intérieur de toi que tu es la dernière personne qui aurait dû être à cette position. Ça vous est déjà arrivé, quelque chose comme ça ? Moi, lors de ma première année à l'école biblique, j'avais déjà passé un an au Québec, puis là, j'ai commencé mes études à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie, l'école biblique de l'ACF. Et là, j'ai commencé mes études, puis j'avais mon statut, comme je venais de la France, mon statut, c'était que j'étais sous un visa d'étudiant. Et ce que ça voulait dire concrètement dans ma réalité, c'est que je ne pouvais pas travailler pour subvenir à mes besoins. J'avais un visa d'études et à cette époque-là, l'ITF n'était pas affilié à l'Université de Laval, donc n'était pas reconnu par le gouvernement comme un établissement scolaire à cette époque-là. Maintenant, c'est le cas. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas et je devais subvenir à mes besoins d'une certaine façon. Il fallait que je trouve un moyen. Puis il y avait une clause dans le visa d'études, c'est que tu pouvais travailler si le domaine de ton emploi correspondait à ton domaine d'études. Il fallait que tu trouves quelque chose. Et quand tu étudies en théologie, ce n'est pas les offres d'emploi qui courent les rues. Okay ? Et finalement, au bout d'un certain temps, il y a eu une opportunité. Il y a eu un emploi qui se présentait. Tout va bien. Il y a eu un emploi qui se présentait à moi. Et en fait, c'était comme un ministère, une compagnie. C'était quelqu'un qui faisait des activités pour les enfants. Le genre de personne qui fait des activités avec la science ou avec des animaux, puis qui présente des histoires de la Bible de cette façon. Donc cet emploi-là rentrait dans les critères. Et on m'a mis en contact avec cette personne. Il s'appelait, la compagnie, c'était Prof Dino. Prof Dino, je sais pas si... Et là, moi, je suis arrivé un matin où il allait faire une présentation dans une école. Et Prof Dino, là, c'était le genre de personnage genre que les enfants aiment, ça fit avec eux, là. C'est comme, il a une perruque tout le temps de clown, il a un nez de clown, puis les enfants, quand ils l'écoutent parler, ils sont captivés, ils sont comme, waouh, ils embarquent vraiment dans ces histoires. Fait que là, il m'emmène avec lui, puis c'est mon test. On arrive dans une école, c'était une école de Longueuil, devant une classe de 30 élèves. Il lui fait sa présentation, puis là, c'est le fun, les enfants, ils embarquent. Les enfants ont les yeux grands ouverts, puis là, ils rient à ses clowneries. Puis là, il me dit, « Ok, vas-y, c'est ton tour. » Puis il va s'asseoir au fond de la classe, puis je ne me souviens pas qu'est-ce que je devais faire, je ne me souviens pas c'était quoi le truc, mais je me souviens que ça ne marchait pas. Les enfants, genre, c'est comme, j'avais aucunement leur attention, les enfants n'étaient pas captivés, je pense que c'était une activité, puis ça commençait à être le chaos, genre, j'étais pas à ma place, ça ne marchait pas. C'était juste triste, puis je n'ai pas eu l'emploi. J'ai été disqualifié. Dieu appelle Gédéon. Il l'appelle à délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis. Mais pourtant, Gédéon, dans le passage qu'on a lu, il ne semble pas être le candidat idéal. La première chose qu'on apprend sur lui, c'est qu'il est en train de se cacher. Au verset 11, Gédéon, fils de Joas, était en train de battre le blé dans dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Ça, c'était comme une cuve, c'était creusé dans la roche, puis Gédéon était à l'abri. Et donc, Gédéon, il avait peur. Et certainement qu'il avait des raisons d'avoir peur, tu sais, avec le contexte. Puis plus tard, dans le livre des Juges, on apprend que tous ses frères s'étaient déjà fait massacrer par l'ennemi. Donc il avait des raisons d'avoir peur. Mais là, il se cache. Et quelle image de quelqu'un qui est, genre, qui vit loin des regards parce qu'il a peur de ce que ça pourrait donner. Gédéon a peur. Et autre chose, Gédéon, il a une mauvaise estime de lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage-là, mais c'est comme s'il y avait deux discours en compétition. D'un côté, il y a le discours auquel Gédéon est habitué. Tous les discours qu'il a entendus toute sa vie. Les discours de la société, du peuple. C'est genre, on a peur, on va se cacher, on va vivre dans les montagnes pour échapper à l'ennemi. Il y a le discours de sa famille. Sa famille, c'est quoi? Ça nous est dit au verset 15, ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et Manassé, c'était la plus petite tribu de toutes les tribus d'Israël. Donc il y a le discours de sa famille, on n'a pas grand-chose à offrir. Regarde, on est une petite famille, pas importante. Puis finalement, il y a le discours de Gédéon qui se fait à lui-même. Je suis le dernier. Je suis le plus jeune des fils. Donc, lui, ce qu'il se dit de lui-même en ce moment, c'est je suis le dernier de la dernière famille, de la dernière tribu d'un peuple qui est opprimé par ses ennemis. Et ça, Gédéon, c'est les discours qu'il reçoit, les discours qu'il a cru à force de les entendre. Mais d'un autre côté, il y a un discours qui vient confronter ces discours-là. C'est le discours de Dieu. Il dit, je suis avec toi, guerrier valeureux. Je suis avec toi, guerrier valeureux. Dieu, où est-ce qu'il sort ça? D'où est-ce qu'il sort ça? Parce que Gédéon n'a pas l'air d'un guerrier valeureux à ce moment-là. Et croyez-moi, ça prenait le regard de Dieu à ce moment-là pour voir en Gédéon un guerrier valeureux. Ça prenait le regard de Dieu pour voir dans cet homme captif de sa peur et avec aussi peu d'estime de lui, un futur libérateur du peuple d'Israël. Et peut-être qu'il y a toutes sortes de discours dans ta vie. Peut-être que tu es bombardé par des voix qui se font entendre dans ta vie et qu'à force de les entendre, tu as accepté ces discours-là. À force d'entendre qu'est-ce qu'on disait de toi, que ta famille est comme ça, tu as accepté ces discours-là. Puis toi aussi, tu te dis, j'ai rien à offrir. Je ne suis pas assez charismatique, je ne suis pas assez intelligent, je ne parle pas assez bien. Ma famille n'a pas d'allure, alors pourquoi est-ce que moi je serais différent? Pourquoi est-ce que Dieu ferait quelque chose avec moi? Dans ma famille, il y a de la chicane, il y a de la tromperie. Pourquoi est-ce que moi, je serais capable de construire quelque chose de solide maintenant? Une famille saine. J'ai trop de défis dans ma vie, dans mon couple. Regarde mon couple, comme on n'est pas capable de s'entendre. Comment Dieu pourrait se servir de moi? Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une voix qui résonne. C'est « Je suis avec toi, guerrier valeureux. » Il y a une autre voix qui résonne. Donc Gédéon, il a peur. Il n'a pas une bonne estime de lui. Puis troisièmement, il n'a pas une bonne connaissance de la parole de Dieu. On va continuer notre lecture. On va aller au verset 17. Gédéon lui dit, il répond à l'Éternel, il lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. » Alors Dieu lui dit, « J'attendrai ton retour. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Alors Gédéon obéit, l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon commence à comprendre ce qui se passe. Il commence à comprendre que Dieu est en train de lui parler. Mais là, il n'est pas sûr. Il est encore dans ses patterns. Là. Il ne veut pas se lancer. Il a peur de se tromper. Alors il dit à Dieu, Gédéon, il a un plan. Il dit à Dieu, « Ok, attends-moi là, bouge pas. Attends-moi une seconde, je reviens. » Puis là, son idée, c'est, il dit, « Je vais préparer une offrande à Dieu, parce que c'est comme ça qu'on vient devant Dieu. Je vais préparer une offrande à Dieu. » Puis si lui, il pourvoit le feu pour consumer l'offrande, c'est que c'est Dieu. C'est ça son raisonnement qui se fait. Alors Gédéon, il part, il va faire son affaire, mais là, on remarque que Gédéon arrive avec un genre de plat, puis en fait, dans ce qu'on a lu, c'était marqué qu'il verse du jus dessus. En fait, c'était comme un bouillon. Donc il arrive avec un genre de petit repas, de la viande bouillie. Et en fait, dans la loi de Moïse, le peuple d'Israël, lorsqu'ils offraient une offrande, c'était de la viande qui devait être consumée par le feu, qui devait être brûlée. Et Gédéon arrive avec son petit repas. Et c'est quasiment cute. C'est comme, ben, Gédéon, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, mais Dieu est bon et Dieu accepte son offrande. Dieu accepte son repas. Mais Gédéon, jusque-là, là, c'est pas nécessairement la gloire. Gédéon, il a peur, mauvaise estime de lui. Et en plus, il connaît même pas bien la Bible. Disqualifié. Il est disqualifié. Et ces derniers temps, moi, je réalise beaucoup le travail qui a été fait par des serviteurs de l'Église ici dans la région. Je prends vraiment conscience en discutant avec des gens qui sont là depuis des années, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été semées. Je prends conscience du nombre de personnes qui ont traversé les murs de cette Église. Et si on s'arrête un instant, pour ceux que ça fait plus ou moins longtemps que vous êtes là, pensez à toutes les personnes qui sont rentrées dans ces murs. Que ce soit Église Nouvelle Vie, ou avant Église Altitude, ou encore avant Église Chrétienne de Charlevoix. Beaucoup de choses ont été semées. Beaucoup de gens sont passés par les portes de cette Église. Et beaucoup de gens ont reçu la parole, la semence. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. C'est dans Ésaïe 55. Et moi, cette semaine, je priais pour l'Église, je priais pour des serviteurs, puis j'avais cette image de tout ce qui a été semé au travers des années. Tout ce qui a été semé, et puis là, actuellement, c'est comme si toutes ces semences avaient été répandues, genre éparpillées par le vent. C'est dans toute la région. Il y a plein de gens qui ont été en contact avec Christ, avec la parole de Dieu. Mais ces semences-là sont éparpillées. Et je crois que Dieu va prendre toutes ces semences qui parfois ont commencé à germer seuls, avec difficulté, chacun dans leur coin. Mais Dieu va prendre tout ça, puis il va nous rassembler. Il va rassembler ses semences, et je crois vraiment, et là, comprenez-moi bien, ce n'est pas un discours où j'essaie de motiver les troupes. Là. Je crois vraiment que l'Église, ici, on va entrer dans un temps de moisson. Et pourquoi je crois ça? Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Tout ce qui a été semé n'a pas été semé en vain. Donc, on rentre dans un temps de moisson, je le crois vraiment. Mais ça, ça vient avec une vérité. C'est que la moisson est grande. Il y a de la job. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres mots, ça veut dire que la parole a été semée, le fruit a mûri, mais maintenant, ça prend de la main-d'œuvre. Ça prend de la main-d'œuvre pour récolter. Et cette main-d'œuvre, elle est ici, juste là. Et peut-être que toi aussi, tu as des défis dans ta vie. J'imagine, moi j'ai plein de défis dans ma vie. Peut-être que tu as peur. Mais de la même façon que Dieu l'a fait avec Gédéon, il t'appelle à sortir du pressoir. Il t'appelle à sortir de ta cachette. Et tes peurs peut-être sont justifiées, tu as peut-être vécu des échecs, des humiliations par le passé. Mais Dieu t'appelle à sortir du pressoir. Et il t'appelle à aller battre le blé à ciel ouvert, dans un endroit découvert. C'est comme ça qu'on fait normalement. En fait, le pressoir, à l'époque, dans l'Antiquité, les gens utilisaient un pressoir à raisin pour battre le blé. Ça arrivait des fois. Ça arrivait, mais c'était une méthode lorsqu'il y avait de petites quantités. C'est fou, hein? Que moi, je ne veux pas me contenter de ces petites quantités. Il y a des gens, la parole de Dieu a été semée. Et on est appelé à sortir de notre pressoir, à ne pas être guidé par nos peurs, par nos défis, mais à entendre le discours de Dieu qui nous dit « Je suis avec toi, guerrier valeureux ». Et s'il y a le discours de la peur, le discours de la mauvaise estime de soi, le discours de « je ne suis pas assez un bon chrétien, je ne connais pas assez ma Bible, je ne prie pas assez bien », il y a aussi ce discours-là. « Je suis avec toi, guerrier valeureux, va avec cette force que tu as. C'est Dieu notre force. Je serai avec toi. » Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, comme pour Gédéon, ça prend le regard de Dieu pour voir en moi, pour voir en toi un guerrier valeureux. Mais lui, il a le bon regard. Lui, il sait qui tu es. Il te voit tel que tu es. Alors, écoutons sa voix ce matin. Il y a 3 semaines, Élise et moi, on est partis en vacances. On a fait un voyage au travers du Canada et on a fait un petit crochet par les chutes de Niagara. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés là-bas? C'est quand même quelque chose. Les chutes de Niagara, on entend parler, mais c'est vraiment majestueux, c'est puissant, c'est beau. Et il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Nous, on a fait on a fait le full kit, on est allé sur le bateau. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Si vous voulez faire un jour, allez-y, c'est beau. C'est vraiment la, waouh, la création, c'est puissant. Et quand on est arrivé là, on est arrivé en auto et on arrive sur le bord de la rivière, sur le bord des chutes, en auto, puis on ne trouvait pas de stationnement. Il y avait pas mal de monde, c'était en plein mois d'août. Donc on a dû retourner en arrière et on est allé se stationner plus loin dans la ville, à peu près à 10 minutes. Donc on a posé notre auto, et là on a commencé à marcher vers les chutes. Et à peu près à 100 mètres d'arrivée aux chutes, on était à un coin de rue, puis là on voit un cinéma. Il y avait, c'était comme une bâtisse en pas très bon état. Puis, il y avait une super grande image des chutes de Niagara. Et il y avait marqué « Cinéma 4 dimensions ». 4 dimensions, c'est 2 dimensions, c'est le cinéma qu'on connaît. Ensuite, les lunettes 3D pour voir la perspective. 4 dimensions, c'est genre tes sièges remuent, puis il y a des petits jets d'eau qui t'arrosent. Donc, l'image des chutes de Niagara, « Cinéma 4 dimensions », vivez l'expérience comme si vous y étiez. Puis moi, on regarde ça, puis ça ne nous a pas allumé tout de suite, mais après on s'est dit, mais quel mauvais concept. Vivez l'expérience comme si vous étiez, mais elles sont là, j'y suis. Les chutes, elles sont là en vrai. Ok, si tu es à l'autre bout du pays, tu fais ça, mais là, ça ne marche pas. Lorsque tu écoutes des discours autres que le discours de Dieu sur toi et que tu te définis d'après ce discours, en fait, tu es en train de devenir un cinéma 4 dimensions. Au mieux, même si c'est des discours positifs, au mieux, tu auras marqué comme si vous y étiez au-dessus de ta tête. Mais Dieu a un discours sur ta vie. Et lorsque tu te définis d'après ce discours, ben, tu es une chute unique au monde. Une chute d'eau magnifique, majestueuse. Et lorsque les gens qui sont autour de toi bénéficient de ça, ils ressemblent à ça. Ils sont complètement aspergés de haut en bas. Les gens qui te fréquentent sont aspergés lorsque tu écoutes la voix de Dieu. On est allé sur le bateau, je vous dis, c'était juste comme... C'était tellement puissant que par moments, j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux. T'es vraiment dans une tempête, il y a de l'eau partout, puis t'es ravagé. Et les gens autour de toi vont ressembler à ça lorsque tu écoutes la voix de Dieu. Si tu écoutes les discours que tu entends sur ta vie, les discours soit qui te rabaissent, ou même des fois des discours positifs, ben au pire, les gens autour de toi auront un petit... artificiel. Puis 3 secondes plus tard, quand ils vont sortir, ils vont être secs de nouveau. Tu n'es pas un cinéma 4D. C'est bon ? On est d'accord avec ça ? Alors ce matin, je t'invite à écouter sa voix. Je suis avec toi. Je suis avec toi, guerrier valeureux. Gédéon est là, il entend l'appel de Dieu, il entend cette déclaration, et jusque-là, il n'y a pas grand changement. Pour l'instant, Gédéon, il ne se passe pas grand-chose, il a toujours l'air autant disqualifié. Il vit une expérience avec Dieu, mais il ne s'est pas vraiment produit de changement. Mais voici 2 choses qui vont prendre place dans la vie de Gédéon, qui vont faire toute la différence, qui vont le transformer en ce guerrier valeureux qu'il est appelé à être. Et ces 2 choses, c'est 2 autels que Gédéon va dresser. Gédéon va dresser 2 autels. On parle des autels A-U-T-E-L-S, pas hôtel-motel. Okay ? En fait, les autels, on voyait souvent ça dans l'Ancien Testament, c'était... Les hommes de Dieu faisaient ça lorsqu'ils avaient une rencontre avec Dieu, lorsqu'ils vivaient un moment spécial, lorsque Dieu était intervenu en leur faveur, ils allaient faire un autel. C'était comme, ils dressaient un tas de pierres, puis au sommet, ils faisaient un sacrifice. Puis ça avait fonction de mémorial, de dire, à cet endroit, Dieu est intervenu dans ma vie. Donc Gédéon dresse 2 autels. Le premier autel, c'est un autel d'adoration, un autel de reconnaissance. On va continuer de lire notre passage, verset 22. À ce moment, Gédéon reconnut que l'ange de l'Éternel, que c'était l'ange de l'Éternel, et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Alors Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel, et il l'appela « L'Éternel assure la paix. » Gédéon vit ce moment où il réalise qu'il est devant Dieu. Il arrive là, il réalise que, ok, depuis tantôt, je parle à Dieu. J'étais devant Dieu avec tout ce que ça implique, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Et moi, je suis venu avec mon petit repas, mon petit bouillon. Mais il réalise aussi que Dieu a accepté son offrande. Alors cette réalisation, ça le conduit à la crainte. Une crainte, mais une crainte saine, parce que Dieu le rassure. c'est une crainte qui se transforme en adoration. Alors que tu rencontres Dieu, tu réalises qu'en fait, tout ce que tu peux offrir à Dieu, lorsque tu veux le servir, tout ce que tu peux offrir, c'est de la chair bouillie. C'est un repas de bouillon, quelque chose d'imparfait. Ouais, ça ne sonne pas super bien. Mais Christ, lui, est le sacrifice parfait. Lorsque tu viens et que tu réalises que Christ a tout accompli pour toi, et que par son alliance avec Dieu, tout ce que tu as à offrir, il l'accepte. Dieu accepte, Dieu accueille ce que tu es dans sa totalité. Et oui, il veut te guérir. Oui, il veut t'amener plus loin dans la connaissance de sa parole, en maturité spirituelle. Mais il t'accueille tel que tu es, où tu es rendu en ce moment, à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est uniquement par Christ, uniquement par Christ, que nous pouvons prétendre à servir dans sa moisson. Lorsque tu fais cette expérience que par Christ, tu n'as plus rien à prétendre ou plus rien à prouver parce que lui a tout accompli, ce qui prend place, c'est la paix. Genre, hey, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à prétendre. Est-ce que tu as expérimenté ça? Tu réalises que Dieu est Dieu, inaccessible, grand, mais Dieu, Christ a tout accompli, alors tu as accès. Et tu n'as plus rien à prétendre, plus rien à prouver, plus rien à faire à part te placer sous l'œuvre de la croix. Et ça, c'est libérateur. Ça laisse place à une grande paix. Et tout serviteur doit d'abord être un adorateur de Jésus, fasciné, quasiment effrayé par le Dieu qu'il sert, une saine crainte, mais aussi émerveillé par le sacrifice et la grâce de Jésus, assoiffé de sa paix, assoiffé de revenir goûter à sa présence. C'est quoi être un adorateur? C'est quoi être un adorateur? C'est simplement être passionné par la présence de Dieu. C'est placer la voix de Dieu, son œuvre, sa personne, au-dessus de toute autre chose, au-dessus de tout ce qu'on entend, au-dessus de tout ce qui se passe autour. Et c'est laisser sa présence nous transformer. Gédéon, il est transformé parce qu'il vient de vivre avec Dieu. Ce dialogue qu'il a, cet échange qu'il a. Gédéon est transformé. Il y a Louis Giglio, qui est un pasteur, et c'est aussi un auteur de chants qu'on chante. On ne le connaît pas beaucoup, mais il a participé à beaucoup de chants qu'on chante dans les églises. Et voici ce qu'il dit. « La véritable adoration impacte souvent les circonstances, mais elle change toujours l'adorateur. » Je vais la redire. « La véritable adoration impacte souvent les circonstances, mais elle change toujours l'adorateur. » C'est ça qui est particulier avec la louange, l'adoration. Parce que des fois, on pense qu'on fait juste offrir quelque chose à Dieu. Mais Dieu, ultimement, n'a pas besoin de nos louanges. La Bible nous dit qu'il est sans arrêt adoré et élevé. Mais ce qui est particulier, c'est que nous, on offre notre louange, on dit des choses sur Dieu, on lui dit « tu es bon, tu es merveilleux ». Mais ce que ça fait, c'est que c'est nous les bénéficiaires. Lorsqu'on loue Dieu, notre esprit est renouvelé, nos forces sont renouvelées, son esprit vient faire son œuvre en nous. Et c'est pour ça que l'adoration est indispensable à un serviteur. Paul nous dit en 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Plus tu contemples, plus tu es transformé à son image. Plus tu adores, plus ta foi est forte, plus ta foi grandit, plus tu l'élèves, plus tu es apte à servir Dieu. Et l'adoration n'est pas réservée à quelques personnes ou à un moment dans la semaine. L'adoration, c'est l'appel de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous sommes appelés à devenir des adorateurs. Et si notre Église veut œuvrer dans la moisson qui se présente devant elle, si on veut saisir ce moment que Dieu prépare pour nous, il faut que nous soyons une Église d'adorateurs passionnés. Est-ce qu'on veut être des adorateurs passionnés? Passionnés pour la présence de Dieu avant tout. Ouais? Conscient que c'est tout pour nous. Cultivons notre passion pour Jésus, pour sa présence, pour sa parole. Soyons des adorateurs avant toute chose, avant des serviteurs, des adorateurs. Cultivons l'adoration dans notre quotidien. Premier autel de Gédéon, un autel d'adoration. Et le deuxième autel, c'est l'autel du témoignage. Versets 25 à 28, on va lire ça ensemble. « La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à côté de ton père, qui est à côté, pardon, et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah qui est dressée à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le taureau et tu lui offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Et ils demandèrent les uns aux autres, qui a fait ça? Gédéon a un appel sur sa vie. Il est appelé à libérer le peuple des oppressions de l'ennemi. Mais avant de l'envoyer vers sa mission, Dieu lui demande d'abord de faire le ménage chez lui. Il lui dit, va renverser les idoles qui sont dans ta maison. Pour être prêt à servir Dieu, il doit d'abord faire ce ménage. Et sa famille était une famille du peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël était corrompu. Il avait commencé à apprendre à adorer d'autres dieux. Et à cause de cet environnement, la famille de Gédéon a laissé entrer des choses dans sa maison, a laissé entrer des idoles. Et moi, je serais très surpris qu'ici, ce matin, il y ait quelqu'un qui ait tendance à se prosterner devant des poteaux sacrés. Ça me surprendrait. Genre de dire, ah, moi, les poteaux en bois, là, c'est mon défi. Ça me surprendrait. Nos idoles, à nous, là, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Tout ce qui empêche Dieu d'avoir la première place. Et dans notre marche chrétienne, on est un peu à l'image du peuple d'Israël qui, à un moment donné, il y a un moment de libération. Puis peu à peu, il laisse entrer des choses. On chemine dans notre vie chrétienne, ça va bien, on renverse des idoles, puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui commence à rentrer. Je commence à convoiter ce que je n'ai pas. Je commence à m'attacher à mon confort, à mon luxe, puis ça prend trop de place dans ma vie, ça devient mon idole. Je commence à regarder des choses que je ne devrais pas. Quand je scrolle sur les réseaux sociaux, puis là, quelque chose que je ne devrais pas regarder, mais une petite affaire. Comment tu laisses rentrer des choses dans ta vie? Je commence à parler sur les gens. Puis là, ça vient me conforter dans mon estime de moi. Je commence à me comparer. Et là, c'est mon apparence qui devient mon Dieu, et etc., etc. Mais ce qui fait la puissance d'un serviteur, c'est son témoignage. Ce qui fait la puissance d'un serviteur, c'est le fait qu'il a renversé les idoles dans sa vie. Et Dieu a un plan aujourd'hui pour toi. Commence aujourd'hui, Dieu t'appelle à être un guerrier valeureux, une guerrière valeureuse. Par contre, il veut toute la place. Dieu veut l'exclusivité dans ta vie. Est-ce que Dieu a l'exclusivité dans ta vie? Puis on a des idoles. Et abat les idoles dans ta vie. Fais le ménage. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu connaît Gédéon. Gédéon, il a des patterns, on l'a vu. Mais Dieu connaît ses patterns. Et lorsqu'il lui dit, va renverser les idoles dans ta maison, il lui demande juste de le faire. Et Gédéon, il a peur encore, il est encore là-dedans, il a encore de la misère. Et tellement qu'il va le faire de nuit, il va obéir à Dieu. Et ce qui est beau, c'est que Dieu est correct avec ça. Dieu est OK. La peur de Gédéon ne le disqualifie pas. Parce que Dieu se sert juste de ceux qui sont prêts à lui obéir, de ceux qui sont prêts à lui faire la première place. Gédéon obéit sans compromis, sans restriction, il y va. Oui, il y va de nuit parce qu'il a encore des défis là dans sa vie. Mais le matin, par exemple, quand les gens se réveillent, ce qu'ils voient, c'est le témoignage de Gédéon, l'autel du témoignage. Alors, si on veut servir Dieu, si tu veux servir Dieu, ce n'est pas ton courage, ce n'est pas tes habiletés, ce n'est pas non plus ta connaissance, mais c'est plutôt ton témoignage qui est le clé de ta puissance. L'autel que tu as bâti en secret, la nuit, quand personne ne le voyait, c'est dans le secret que ça se passe. Ces moments-là, là, ces moments clés pour la puissance d'un serviteur se passent dans le secret. Lorsque tu abats les idoles la nuit, loin des regards. Ces mêmes idoles qui avant étaient une occasion de chute pour toi, Dieu va en faire un combustible pour ton témoignage. Gédéon, il obéit là, vous avez vu, il renverse l'autel et Dieu lui dit, tu prendras le bois du poteau sacré pour brûler le sacrifice. C'est vraiment magnifique, c'est quelque chose là. Dieu utilise ce qui avant était une occasion de chute pour toi, ce qui te détruisait, ce qui t'accablait, ce qui te pourrissait la vie. Il va le servir, il va s'en servir pour sa gloire. Il va en faire un témoignage puissant. Ça va être le combustible de ton témoignage. Amen. Et c'est ça la puissance d'un témoignage. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on oublie ce que Jésus nous a demandé. Jésus nous a appelés à être ses témoins. Jésus ne nous a pas appelés à être ses théologiens. Amen. Moi, je vais être son témoin. Lorsque je renverse des idoles dans ma vie, Dieu utilise ça puis il le tourne à sa gloire. Il fait de grandes choses. Et par son esprit, il va faire des grandes choses au travers de moi, au travers de toi. Amen. Et ce matin, alors, je voudrais qu'on fasse quelque chose tous ensemble. En terminant, je crois que Dieu a un temps de moisson prévu pour nous. Dieu nous appelle. Et Dieu, il t'appelle, guerrier ou guerrière valeureuse. Et alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va, nous aussi, bâtir deux autels. On va faire ça, bien sûr, on ne bâtit plus des autels, parce que Jésus est le sacrifice parfait. Mais on va prendre ce chant qui dit « Si je dois trembler, ce sera devant toi, uniquement. » Et oui, j'ai des défis. Actuellement, là où j'en suis, là, je veux servir Dieu. De tout mon cœur, je veux servir Dieu, mais regarde, j'ai des défis, j'ai des failles, j'ai des manquements. Il y a plus doué que moi, il y a plus charismatique que moi, il y a plus, etc., etc. Mais je ne vais pas trembler devant ces choses-là, moi. Je vais juste trembler devant Dieu. Parce que c'est le seul qui est digne de ma crainte. Et ça, ce que ça veut dire, c'est le seul qui est digne de mon adoration. On va bâtir un autel d'adoration. Mais on va aussi bâtir un autel du témoignage. Et aujourd'hui, là, je pense que c'est le temps. Un temps où on revient à Dieu. Et je t'invite à renverser les idoles qui sont dans ta vie. Et je ne sais pas c'est quoi, là. Je ne sais pas, toi seul le sais, et puis ça va se passer là. Ça va se passer dans le secret. Le confort, une relation, une habitude, quelque chose que tu laisses entrer régulièrement qui est en train de prendre trop de place. Renversons les idoles ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on veut se lever ensemble puis on va prendre un temps pour prier ?